France Inter.
France Inter, il est 13h. L'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Thomas et bienvenue à tous. À la une de ce 13h, la dégradation de la note française par l'agence S&P. À deux jours du débat budgétaire, le ministre de l'économie, Roland Lescure, y voit un appel à la lucidité. Quelles conséquences sur les taux d'intérêt sur les marchés? Luc Chemla nous expliquera tout dans un instant. Incertitude politique avec ses conséquences sur des lois qui auraient dû être débattues, mais finalement retirées au dernier moment. C'est le cas des deux projets de loi sur la fin de vie, proposition de loi sur la fin de vie. Le député Olivier Falorni exhorte l'exécutif de les réinscrire sans tarder pour en débattre au Sénat. Olivier Falorni qui sera notre invité dans un instant. À l'étranger, nous verrons quel processus de paix Donald Trump et Vladimir Poutine envisagent en Ukraine. À Londres, le prince Andrew renonce à ses derniers titres royaux et les honneurs qui vont avec. Près de Rennes, nous constaterons que le marché des vêtements d'occasion s'installe dans les hypermarchés. Et puis en football, on va se demander, mais où est passé Paul Pogba? Le Monégasque, éloigné des pelouses depuis près de 2 ans, aurait dû faire sa rentrée ce soir en Ligue 1, mais c'est encore raté. Le temps, et le temps de ce samedi, Magali Rochereau avec le triomphe du soleil, encore un peu.
Oui Eric, sauf toujours au-dessus du Val-de-Saône qui lui conserve encore son ciel bouché. Et puis côté température, les maximales sont bien contrastées sur le pays.
Vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Le gouvernement se veut donc serein après la dégradation de la note de la France par l'agence de notation S&P qui retire le double A pour un simple A+. C'est la troisième dégradation en un an de la note souveraine française. Mais vous allez l'entendre, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a tenu ce matin à rassurer les marchés, rassurer les Français et appeler les députés à la responsabilité.
C'est au fond un nuage supplémentaire qui s'ajoute à un bulletin météo qui est déjà assez gris. C'est un appel à la lucidité, à la responsabilité. J'ai eu l'occasion de confirmer notre détermination à tenir l'objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025. L'agence Standard & Poor's y fait référence. Je voudrais quand même rassurer vos auditeurs. On a des atouts qui vont nous aider sur le chemin. L'agence elle-même, elle a souligné les très bons fondamentaux de l'économie française. On a une économie diversifiée, on a une croissance qui résiste et on a, c'est très important, un haut niveau d'épargne. L'objectif absolu, c'est 3% du PIB en dessous en 2029. Ça va nous permettre de stabiliser la dette. Donc effectivement, ça va demander des efforts et au fond, c'est ce que nous dit l'agence Standard & Poor's aujourd'hui. Et ces efforts, ils vont devoir mériter la responsabilité collective à la fois du gouvernement et du Parlement.
Alors, Roland Lescure, invité ce matin de nos confrères de France Info, le ministre de l'économie, qui se veut donc rassurant. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Service économie de France Inter. Ce qui est en jeu dans cette dégradation de la note de la France, ce sont les taux d'intérêt pour les investisseurs sur le marché. Cet abaissement de la note, elle aura de quelles conséquences?
Alors le risque, c'est une nouvelle et sensible augmentation des taux d'intérêt, parce qu'avec la dégradation de la note de Standard & Poor's, acheter de la dette française peut être considéré comme un peu plus risqué et qui dit hausse des taux, dit que la France devrait emprunter plus cher, ce qui alourdirait le coût de la dette pour ses finances publiques. Mais cette situation va-t-elle arriver? Eh bien, les économistes avec lesquels je me suis entretenu sont divisés. Certains prévoient une stabilité car la dégradation en tant que telle n'est pas une surprise et les investisseurs ont pu anticiper. L'économiste Norbert Gaillard estime, lui, que dans les prochains jours, les taux pourraient augmenter. Le fait que S&P ait dévoilé sa note de manière surprise un mois plus tôt que prévu est un mauvais signal.
Les investisseurs peuvent être amenés à juger que là, il se passe quelque chose quand même d'inquiétant et que donc, du coup, c'est une dette qui devient risquée. On aurait un plus grand nombre d'investisseurs qui se délesteraient de la dette française, surtout à moyen long terme. Et donc, du coup, comme il y aurait une demande moindre, ça voudrait dire que les taux augmenteraient mécaniquement.
Autre risque, cette dégradation de la note d'un double A à un seul A peut réglementairement obliger certains fonds à se délester de titres de la dette française. Alors après des semaines de tensions croissantes autour des taux français dues à l'instabilité politique, l'échec des motions de censure contre le gouvernement a rassuré les investisseurs, à voir maintenant si l'accalmie de cette semaine est de courte durée après l'annonce de Standard & Poor's.
Vous évoquiez, Luc, l'instabilité politique, elle a des conséquences, des dégâts collatéraux, notamment pour deux proposition de loi sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir qui aurait dû être débattue au Sénat à partir de lundi. Or, les sénateurs préfèrent finalement reporter cet examen. Bonjour Olivier Falorni.
Bonjour.
Vous êtes député apparenté Modem et vous êtes à l'origine des propositions de loi sur la fin de vie. Et vous exhortez désormais l'exécutif et aussi le Sénat à réinscrire ces deux textes à l'Assemblée, à l'agenda parlementaire. Avec quels arguments ?
Mais parce qu'il y a urgence. Et ne pas reconnaître l'urgence, c'est une forme d'indécence. Aller demander à tous les malades en fin de vie, aller demander à Charles Biétry qui réclame cette loi en urgence et qui l'avait réclamé d'ailleurs au président de la République lors d'une interview le 13 mai dernier. Et d'ailleurs le Premier ministre lui-même a mis cette question de la fin de vie dans les urgences. Et,
dans sa déclaration de politique générale, oui.
Triste symbole, au moment où il annonçait cette nécessité que les discussions sur la fin de vie se poursuivent, en même temps, la conférence des présidents du Sénat a décidé son report sine die. Vous savez, il y a une forme de sabotage qui ne dit pas son nom. En tout cas, c'est l'organisation méthodique de l'enlisement et il faut en sortir maintenant très vite.
Sabotage, dites-vous, comme une trahison de quel groupe de sénateurs en particulier ?
Alors, évidemment, je veux rappeler, et c'est important parce que je veux les remercier, de nombreux présidents de groupe au Sénat, qu'ils soient de gauche ou du centre, sont intervenus pour que le débat ait lieu. Mais le groupe LR majoritaire, qui est réfractaire à l'ouverture d'un droit à l'aide à mourir, vraiment fait tout pour que ce débat n'ait pas lieu. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas afficher leurs convictions, leur vote, alors que c'est le rôle même d'un parlementaire. Donc, moi, j'en appelle maintenant. Maintenant, à l'exécutif, parce que le gouvernement a des semaines dédiées. Ils peuvent inscrire dans l'ordre du jour du Sénat ces deux textes importants. Et si ça ne devait pas être le cas, eh bien, écoutez, je prends au mot le président de la République.
Pour un référendum.
Je faisais référence à l'échange qu'il a eu avec Charles Biétry sur TF1 au mois de mai. Charles Biétry s'inquiétait de l'enlisement. Et le président de la République lui avait répondu très clairement. Il avait dit que s'il devait y avoir enlisement, il ne s'interdisait pas de recourir au référendum. Eh bien, écoutez, nous sommes dans l'enlisement. Eh bien, peut-être qu'il faut maintenant recourir au référendum.
Référendum sur l'aide à mourir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque pour vous de voir les Français dire non à ce référendum juste pour dire non au chef de l'État qui est devenu impopulaire ?
Oui, j'ai bien conscience de ce problème. Dans certaines périodes de crise, les Français ont tendance à répondre plus à l'auteur de la question qu'à la question elle-même. Et pour éviter effectivement que ce référendum se transforme en plébiscite pour ou contre le président, je pense qu'il faudrait soumettre le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale
au mois de mai,
305 députés ont voté pour l'aide à mourir, c'est-à-dire bien au-dessus de la majorité absolue des 289 qui fait bien rêver des députés. Et donc ce texte, qui était une proposition de loi, qui peut être transformée en projet de loi selon les règles constitutionnelles, eh bien finalement serait soumis au vote des Français et qui aurait à se prononcer sur le travail fait par leurs députés.
Merci beaucoup Olivier Falorni d'être venu en parler en direct sur France Inter. Et puis à propos des retraites, on va retenir ce matin cette déclaration du ministre du Travail dans Ouest France. Jean-Pierre Farandou affirme que d'autres régimes de retraite sont possibles. Il évoque notamment le projet d'un système à points qui laisse à chacun le choix du moment de son départ, un système qui avait été abandonné en 2020 à cause du Covid.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Ceux qui espéraient que Donald Trump impose un cessez-le-feu en Ukraine comme il l'a fait au Proche-Orient sont déçus ce matin. Volodymyr Zelensky aussi, il a quitté la Maison-Blanche sans obtenir les missiles Tomahawk que le président américain préfère garder pour les États-Unis. Une rencontre est prévue dans 15 jours entre Donald Trump et Vladimir Poutine et ce que peut craindre le président ukrainien. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Rédaction internationale de Radio France. Ce que peut redouter Volodymyr Zelensky, c'est que les deux hommes, américains et russes, s'entendent sans lui sur un accord.
C'est vrai que tout a basculé pour les Ukrainiens 24 heures avant la rencontre d'hier à la Maison Blanche, quand Donald Trump s'est longuement entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine et qu'il a une nouvelle fois changé de posture sur cette guerre en Ukraine. Lui qui menaçait deux jours plus tôt Moscou d'envoyer des missiles longue portée Tomahawk, vous l'avez dit, à l'Ukraine, il craint à présent une escalade militaire. Il est à nouveau convaincu, dit-il, que Poutine veut vraiment un arrêt des combats, alors qu'il semblait avoir compris l'inverse. Et puis il y a cette rhétorique utilisée hier par le président américain qui renvoie dos à dos le russe et l'ukrainien comme si les torts étaient partagés, comme si c'était acceptable pour l'Ukraine d'arrêter les combats sur les lignes de front actuelles et donc de renoncer à un cinquième de son territoire national. Voilà, en deux jours, Donald Trump a remis Vladimir Poutine au centre du jeu et c'est bien avec lui et sans Volodymyr Zelensky qu'il compte avancer vers un accord de cessez-le-feu dans les semaines qui viennent en Hongrie, à Budapest, autant dire en terrain conquis pour le président russe.
Camille Magnard, rédaction internationale. À Londres, le prince Andrew renonce à ses derniers titres royaux. Le frère du roi Charles III est englué dans le scandale du financier américain Jeffrey Epstein. Il est mort en prison il y a 6 ans avant d'être jugé pour une série de crimes sexuels. Le prince Andrew, donc, renonce à ses titres et aux honneurs, tout en niant les accusations dont il fait l'objet. À Londres, Sarah Menahi.
C'est le prince Andrew lui-même qui l'a annoncé au travers d'un communiqué. Il renonce aux deux derniers titres qui lui restaient, duc d'York et membre de l'ordre de la Jarretière, des titres directement hérités de sa mère Elisabeth II. Le roi Charles III aurait aujourd'hui estimé que les scandales de son frère étaient une distraction sans fin qui détournait l'attention du travail des autres membres de la famille royale. Andrew est tombé en disgrâce en raison de ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. L'annonce de son renoncement intervient 3 jours avant la publication des mémoires posthumes de Virginia Giuffre, sa principale accusatrice qui dit avoir eu des relations sexuelles avec le prince alors qu'elle n'avait que 17 ans. Giuffre avait engagé des poursuites. Andrew, qui continue de nier, avait évité un procès en versant à son accusatrice plusieurs millions de dollars. Virginia Giuffre s'est suicidée en avril dernier, mais ses mémoires seront publiées à titre posthume mardi prochain. Londres, Sarah Menei, France Inter.
En France, pas contents les éleveurs de bovins depuis que la France a interdit hier les rassemblements et les exportations de bestiaux pendant 15 jours. Une mesure pour enrayer la vague de dermatose nodulaire contagieuse. 86 foyers ont été détectés dans l'est de la France et aussi dans les Pyrénées-Orientales. Mais l'interdiction concerne tout le territoire français, d'où l'inquiétude des éleveurs du Périgord vert. Ils sont nombreux là-bas à envoyer leurs veaux en Espagne pour l'engraissement et ils redoutent désormais une chute des cours. Nous partons donc à Thiviers dans le Périgord où Pierre Léonard élève 200 limousines. Reportage ici Périgord de Jeanne de Butler.
Pierre Léonard montre son exploitation. 20 broutards qui devaient partir à l'engraissement en Espagne ou en Italie.
Moi j'ai des broutards qui sont à sortir là. Immédiatement. Fermer l'export comme ça du jour au lendemain, ça va avoir un impact phénoménal, particulièrement en 15 jours, mais en 2 jours ça peut arriver.
Pendant 2 semaines, les éleveurs vont se rabattre sur le marché français, sauf que les engraisseurs sont peu nombreux en France et il a peur que les prix s'effondrent.
On est sûr que le prix va se casser la gueule à partir de lundi matin, c'est garanti, c'est sûr. Du jour au lendemain, des broutards qui se vendaient 7 euros ou un tout petit peu plus, ben, l'acteur français qui sera là, sachant qu'il n'y a plus la place de l'acteur espagnol, l'acteur italien, s'il est le seul à acheter dans la région, il est capable de dire, je suis seul, donc au lieu de vous l'acheter 7 euros, je vous donne 3 euros.
Pierre Léonard va jouer la rétention, engraisser lui-même ses bêtes.
J'ai un tout petit peu de trésorerie qui va me permettre de garder ces animaux. Il va falloir qu'on donne de la nourriture et cette nourriture coûte très cher. Et dans 15 jours, 3 semaines, quand si le marché rouvre, on va se retrouver avec un afflux massif de ces animaux qui n'ont pas été vendus pendant les 15 jours. Et forcément, même si le marché repart de plus belle, les tarifs ne seront pas maintenus à ceux qu'on a connus hier.
L'éleveur dit que ce n'est pas lui qui est dans la pire situation. Il pense à ses collègues qui devaient faire partir des nourrissons dans 15 jours. Les bêtes auront grandi, elles ne seront même plus vendables.
À la frontière de la politique et de la culture, voilà un revers pour Laurent Wauquiez lorsqu'il était président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le tribunal administratif de Lyon vient d'ordonner à la région de reverser au théâtre Nouvelle Génération de Lyon une subvention qu'il avait supprimée en 2023. Il y en a tout de même pour 150 000 euros, Stéphane Capron.
Et le tribunal administratif de Lyon pointe d'ailleurs la portée politique de la décision de la région. Il explique dans sa décision que le refus de subvention était illégal dès lors qu'il est fondé sur un motif politique étranger à l'intérêt général. Joris Mathieu, qui dirigeait à l'époque le théâtre Nouvelle Génération, était aussi l'un des présidents du SYNDEAC, le syndicat des entreprises culturelles du secteur public. Il avait été soutenu par toute la profession. L'affaire avait donné lieu à de nombreuses tribunes à l'époque, signées par des élus et des artistes qui accusaient Laurent Wauquiez de décisions unilatérales et de dérives autoritaires et populistes. D'autres collectivités, de gauche ou de droite, avaient embrayé le pas en supprimant des subventions au secteur culturel comme la région des Pays de la Loire ou le département de l'Hérault, mais pour des raisons budgétaires. La région Auvergne-Rhône-Alpes avait justifié ces coupes par une réorientation au profit des territoires ruraux les plus éloignés de l'offre culturelle. Elle estime que la décision du tribunal administratif remet en cause la libre administration des collectivités territoriales et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des subventions publiques.
Et nous partons maintenant au sud de Rennes, vérifier l'engouement des Français pour les vêtements de seconde main. Depuis un peu plus d'un an maintenant, dans la commune de Guichen, l'hypermarché Super U vend des vêtements d'occasion. C'est le fruit d'une collaboration entre l'enseigne locale et l'association PIC Éthique. Les vêtements sont récupérés auprès des particuliers dans environ 7-8 communes de la région. Des vêtements y compris de haut de gamme. Et ça marche plutôt bien, Romain Biteau.
Les mains dans les cintres, Isabelle pense avoir trouvé la perle rare.
Un pantalon, la marque Sepia.
Et ça c'est un 42, alors il me faudrait un 40, mais c'est dommage.
Raté pour cette fois, dès qu'elle vient faire ses courses, elle passe par le rayon. À la recherche de bonnes affaires pour son porte-monnaie, les vêtements sont vendus moitié moins cher.
Et bah, nous on recherche la bonnet, hein. C'est ça maintenant, aujourd'hui.
Catherine, un sac de provisions à la main, ne trouve pas son bonheur non plus, mais salue l'initiative.
Moi je trouve ça très très bien. La deuxième main, en plus c'est propre, bon voilà, le manque c'est pas abîmé.
350 vêtements en rayon, des dons de particuliers récoltés par l'association Piquetique. Avec d'autres bénévoles, Stéphanie Burtin se charge de leur donner une seconde vie.
Donc ils sont tous détachés, réparés, systématiquement lavés, repassés, pour qu'ils aient voilà, l'air neuf en rayon.
Les rayons d'un hypermarché, pas anodin.
L'idée c'était d'aller vers les habitants en allant bah, là où ils vont faire leurs courses toutes les semaines, au quotidien, que ça se démocratise. Et on pense que le changement doit provenir de l'offre.
600 articles vendus depuis un an, ça fait marcher l'économie locale, affirme Isabelle Canquois, direction communication du groupe U, avec un autre effet.
On a dédié un espace, et c'est un espace qui prend la place sur le textile neuf, où on a moins commandé de textile neuf, donc c'est aussi une économie de carbone d'une manière générale.
Pour donner ses vêtements, un bac est disponible à l'entrée de l'hypermarché.
Romain Biteau, ici Armorique. Aujourd'hui, samedi 18 octobre, premier jour de vacances de la Toussaint. Et attention sur les routes. La prévention routière multiplie les opérations de sensibilisation, notamment auprès des jeunes. Exemple dans la Creuse, 350 élèves et personnel aussi du lycée professionnel et du collège de Saint-Vaury ont suivi une séance de prévention routière avec une dizaine d'ateliers, Solène Larquier.
Les jeunes se penchent sur une voiture, capot ouvert.
Est-ce que vous savez pourquoi il ne faut jamais faire un niveau de liquide de refroidissement à chaud?
Oui. C'est chaud et si on ouvre, bah déjà ça éclabousse, on va dire.
Ouais, ça va exploser et en fait vous allez finir brûlé, surtout que c'est agressif pour la peau.
Mathis, 17 ans, étudie la mécanique automobile, c'est l'un des formateurs du jour.
Avant de commencer la mécanique, j'avais pas conscience de tous ces risques et on m'a formé à faire attention. C'est important pour tout le monde. Si jamais leurs parents a oublié comment faire l'entretien de leur véhicule, notamment ils pourront rappeler aux parents comment faire et ils sauront aussi plus tard se débrouiller tout seuls pour faire un entretien.
L'intérêt d'un atelier d'élève à élève est double, estime Laurent Vigneron, professeur et organisateur de cette journée.
Pour leur prouver qu'eux aussi sont quand même capables d'animer des ateliers, d'expliquer des choses. Et nous, on n'a pas forcément les bons mots. Et eux, de leur côté, ils savent l'expliquer avec leurs mots à eux.
Lucas, 14 ans, sort convaincu des ateliers qu'il a suivis.
Savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une voiture, comment fonctionne un moteur, la ceinture aussi, pas avoir le téléphone, puis pas conduire quand on a bu. Surtout en ce moment, il y a de plus en plus d'accidents sur les routes. Donc il faut être plus prudent.
Il y a eu 62 accidents de la route en Creuse entre janvier et septembre. C'est plus que toute l'année 2024, même si le nombre de tués est en baisse.
Solène de Larquier, ici Creuse. Et c'est encore raté pour Paul Pogba. Pogba. On parle de football. Le joueur de Monaco aurait dû faire son retour ce soir sur les terrains face à Angers. Après 2 ans sans jouer, d'abord blessé, puis suspendu pour dopage, le champion du monde 2018 a aujourd'hui 32 ans. Et son absence se prolonge, Xavier Monferrand.
N'Golo. Il apparaît tout sourire aux côtés de son ancien complice chez les Bleus, N'Golo Kanté. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Paul Pogba en tournée au Moyen-Orient, passage par Dubaï et l'Arabie Saoudite ces derniers jours, bien loin d'Angers, où son retour était attendu, finalement reporté, annonce Thiago Scuro, le directeur général de l'AS Monaco.
Paul a eu un petit pépin la semaine dernière. Ça nous coûte 2 semaines de préparation en plus. Depuis qu'on travaille ensemble, c'est la première fois qu'on a un contretemps. Ce n'est pas la fin du monde. On repousse de 2 semaines pour qu'il soit mieux préparé.
Paul Pogba, victime d'une alerte musculaire à la cuisse droite et qui ne devrait donc pas jouer avant la fin du mois, au mieux, ça laissera du temps à Sébastien Pocognoli, le tout nouvel entraîneur belge de l'AS Monaco, pour s'emparer du dossier de l'ancien champion du monde.
Il y a une chose que moi j'essaie toujours de faire avec tous mes joueurs. J'essaie toujours d'avoir un plan. Ce sera pareil pour Paul. Et ça, ce plan, ce sera à moi de voir à quelle mesure il est réalisable et à quelle mesure on va dedans ensemble avec lui.
Et les premières minutes de Paul Pogba sous le maillot de l'AS Monaco sont désormais attendues à Nantes le 29 octobre ou face au Paris FC le 1er novembre. Enfin, si tout va bien.
Si tout va bien, effectivement. Angers, Monaco, coup d'envoi au stade Raymond Coppa, ce sera à 19h. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Magali Rouchereau.
Bonjour Eric.
Eh bien le soleil va finir par prendre le relais.
Oui, même si quelques nuages résistent encore près des frontières du Nord et très localement vers le Val de Saône, ailleurs c'est place à une journée généralement bien ensoleillée, avec quand même un ciel un peu plus nuageux au-dessus de la Côte d'Azur et de la Corse, dû à la température chaude de la mer qui provoque l'instabilité. En Bretagne, les nuages se font de plus en plus denses, annonciateurs d'un changement de temps pour demain, avec même déjà quelques gouttes qui vont tomber ce soir.
Et sur le tiers sud-est, les températures sont encore douce. Hein.
Oui, il fait encore bon au pied des Pyrénées, mais plus frais sous les grisailles persistantes du centre-est. Météo France attend des maximales entre 19 à 24 degrés près de la Méditerranée, mais aussi dans le sud-ouest. 24 à Bordeaux, jusqu'à 25 à 27 prévus dans le sud de l'Aquitaine, voire 27-28 dans l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. 27 à Biarritz, dans la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, elle reste comprise entre 14 à 19 degrés. 15 à Lille, 16 dans la capitale et 17 à Brest.
Les prévisions de Magali Rochereau.